Bercy se dote d'un nouvel arsenal de lutte contre la fraude fiscale avec l'apparition d'une nouvelle police du fisc qui mènera ses propres enquêtes, qui pourra faire ses propres filatures, avec l'apparition aussi de cette notion anglo-saxonne du name and shame pour frapper les entreprises sur le terrain de leur réputation, avec des sanctions qui sont plus fortes, avec des procédures qui sont plus efficaces, avec des algorithmes qui vont permettre de mieux recouper les données fiscales pour mieux traquer les fraudeurs fiscaux. Mais cet arsenal est-il vraiment efficace? Va-t-il vraiment permettre à Bercy de gagner sa guerre contre les fraudeurs fiscaux? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Mathieu Jolivet reçoit les décodeurs de l'écho.
Bienvenue donc si vous nous retrouvez dans les décodeurs de l'écho consacrés ce soir au projet de loi de lutte contre la fraude fiscale qui est tout chaud. Il vient juste de sortir à la mi-journée. C'est Gérald Darmanin qui vient d'en présenter en tout cas les grandes lignes en Conseil des ministres. Et pour évoquer ce sujet, un casting de choix avec nous puisque nous sommes avec François Eckhall, économiste spécialiste des finances publiques, président de Fipeco. Bonjour.
Bonjour.
Charles Prats, magistrat spécialiste de la lutte contre la fraude. Bienvenue.
Bonsoir.
Nous sommes avec Mirko Hayat, professeur de droit et fiscalité HEC Paris. Bienvenue aussi, Mirko Hayat.
Bonsoir.
Virginie Pradel, qui est fiscaliste. Bonsoir, bienvenue. Et puis Vincent Drezé, ancien secrétaire général du syndicat Solidaire Finances Publiques à Bercy.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue à tous. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, pendant cette heure, là, on vient d'avoir ce projet de loi qui est tout chaud. Donc, on va dérouler les grandes têtes de chapitre ensemble. Vous avez lu, là, il y a quelques heures aussi, ce projet de loi pour essayer de comprendre ensemble où on va, si les mesures annoncées aujourd'hui sont potentiellement efficaces, si ça peut faire avancer cette lutte contre la fraude fiscale. Le premier chapitre, peut-être, d'ailleurs, c'est l'article premier de ce projet de loi. Il concerne la création d'une police fiscale. C'est Bercy qui va avoir ses propres agents. Ils vont être 30 à 40 pour commencer. Ils vont avoir un entraînement une formation de 8 mois, une formation des agents du fisc qui auront des formations d'enquêteurs pour faire des mises sur écoute, pour accélérer les enquêtes, pour faire des filatures aussi. Charles Prats, ça c'est un domaine que vous connaissez bien puisque vous êtes magistrat, vous avez été très actif avec les douanes, avec la douane judiciaire.
J'ai été douanier.
Qu'est-ce que vous inspire cette création d'une police fiscale? Est-ce que sur le papier, c'est quelque chose qui vous paraît intéressant et efficace au sein de Bercy?
Ah, écoutez, c'est très intéressant et très efficace, d'autant plus que ça existe déjà. Vous avez déjà un service.
Ça commence bien.
Vous avez déjà un service de police fiscale qui s'appelle la BNRDF, qui est composé à parité pratiquement, un mélange d'officiers de police judiciaire, donc de policiers et d'agents des impôts habilités à exercer des enquêtes judiciaires. Vous avez au sein de Bercy un service national de douane judiciaire, donc ce sont des douaniers habilités à faire des enquêtes judiciaires. Et donc là, en fait, le projet de loi consiste à vouloir créer un service fiscal judiciaire au sein du ministère des Finances. Et alors, il y a un arbitrage a été rendu. Finalement, ce serait une sorte de garde des finances judiciaire à la française, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers la création d'un service commun entre la douane judiciaire et les agents du fisc judiciaire, et en fait qui prendrait la forme de l'adjonction d'agents des impôts au sein du service national de douane judiciaire, qui changerait de nom.
Mais ça a du sens en fait. Cette nouvelle brigade pourra s'appuyer sur l'expérience de cette douane judiciaire qui a des douaniers qui eux ont fait leurs preuves.
Mais si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que les agents de la BNRDF ils travaillent depuis bientôt 10 ans. C'est une création de 2009-2010 cette habilitation judiciaire. Ces agents sont déjà là.
Si j'ai bien compris, chacun à sa place. C'est-à-dire qu'à la BNRDF, les dossiers où il y a des notions de crime, de corruption ou de blanchiment, et la fiscalité pure à Bercy. Dossiers peut-être.
Je citerai le Conseil d'État, si vous voulez. Donc, on n'a pas le texte encore du projet de loi. On a pu voir les documents préparatoires, les documents de communication. En revanche, le Conseil d'État a mis en ligne son avis cet après-midi. Et donc, à l'analyse du Conseil d'État, on comprend bien les réserve qu'a émis le Conseil d'État sur cette mesure, puisque les magistrats du Conseil d'État disent noir sur blanc qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de cette mesure, que pour eux, il aurait mieux valu renforcer le service déjà existant, et le Conseil d'État tire la sonnette d'alarme sur une éventuelle guerre des polices entre polices fiscales, c'est-à-dire d'ailleurs mettre de côté la douane, mais ils ne comprennent pas, et on peut l'admettre, qu'il y ait deux services judiciaires fiscaux qui finalement auront des compétences juridiques sur exactement le même champ, puisque ça reste le même article dans le code de procédure pénale, et donc on s'oriente éventuellement vers soit une guerre des services de police fiscale, soit à terme plus ou moins court, à la fin de la BNRDF et à la récupération des officiers fiscaux judiciaires au sein du nouveau service de Bercy.
Vincent Drezé, vous êtes à Bercy, vous êtes membre du syndicat solidaire Finances Publiques. Comment est-ce que vous, et vous êtes fiscaliste, hein, donc comment est-ce que vous voyez cette création de cette nouvelle brigade? Vous craignez, comme le dit Charles Prats, des doublons et une guerre des polices avec le BNRDF de l'intérieur?
Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la BNRDF, à l'époque, quand elle a été créée en 2010, il y avait déjà cette concurrence entre l'intérieur et les finances. Les finances voulaient déjà une police fiscale jointe au service de la douane judiciaire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous étions sur cette position. La BNRDF a été créée. Et il est vrai que le champ de la BNRDF est plus large que le seul champ de la fraude fiscale. Et peut-être on a loupé une occasion à l'époque, mais on ne va pas refaire l'histoire. Ce qui est dommage là, c'est que finalement, on ne donne pas de la visibilité à la BNRDF. On leur dit, vous allez faire aussi, pas simplement la fraude fiscale complexe, mais tout ce qui est lié à la corruption, etc. Bon. Et puis, on va dire à des agents qu'on aura prélevés dans les services de contrôle existants pour créer ce service judiciaire fiscal, vous allez faire que de la fraude fiscale. Mais c'est très théorique, on ne peut pas déterminer ça a priori. Que va-t-il se passer lorsque, effectivement, mais je suis d'accord avec Charles Prats là-dessus, on risque d'avoir une concurrence. Et c'est bien dommage pour l'action publique et au final pour l'efficacité même de la lutte contre la fraude fiscale.
En même temps, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de tenter de renforcer les moyens? Puisque, alors ça, c'est Gérald Darmanin qui l'a rappelé aujourd'hui, il y a plus de 500 plaintes qui ont été portées par la DGFiP, la Direction Générale des Finances public depuis 2010, et seulement la moitié a été traitée depuis. Donc il y a un engorgement, ils disent qu'aujourd'hui le stock restant, donc la moitié des dossiers instruits depuis 2010, c'est un stock qui compte solder en 6 ans. Donc il y a peut-être un besoin en tout cas de renforcer les moyens pour traiter plus rapidement les dossiers.
Le besoin il existe, ça c'est sûr. L'idée d'avoir un service fiscal et douanier à Bercy, dirigé par un magistrat, est une bonne idée. On s'interroge sur l'avenir de la BNRDF et sur cette concurrence. Par ailleurs, juste un mot sur la question des moyens. Tout ça se fait effectif diminuant et en prélevant des effectifs dans d'autres services. Donc, objectivement, de ce point de vue-là, on est quand même loin du compte. Et c'est une donnée à prendre en compte. Ce n'est pas simplement...
Ça n'a pas créé un engouement en interne à Bercy
Il y aura probablement assez de candidats. C'est ce qui s'est passé à la BNRDF. Il y a une formation qui est exigeante. C'est un métier qui est lui-même exigeant, mais qui est également intéressant. Le problème de ce qu'on appelle les moyens, pas simplement les moyens humains, mais aussi les moyens, notamment, je dirais, budgétaires, est objectivement quelque chose qui pèse dans la lutte contre la fraude fiscale. Donc c'est vrai qu'il y a de la matière et il y en aura bien plus si on est bien plus efficace. Donc ça pose question. Mais encore une fois, c'est vraiment dommage. Les agents de la BNRDF aujourd'hui cherchent une visibilité. Ils se disent, que va-t-il se passer pour nous? Est-ce qu'on va être satellisé en dehors de la fraude fiscale ou pas? Comment on va organiser cette complémentarité? Il faut que ça soit complémentaire et pas concurrent. Pour l'instant, disons qu'il n'y a pas assez de garantie. Et c'est dommage parce que ça part d'une bonne idée.
Virginie Pradel, sur ce sujet de la police fiscale, alors je ne sais pas si vous avez fait une étude comparative avec les pays étrangers là-dessus, parce que je sais que sur le name and shame, on y reviendra un peu plus tard, mais vous avez regardé un peu comment ça se passe à l'étranger. Mais est-ce que, je pense par exemple à l'Italie, ils citent souvent à Bercy l'exemple italien avec la Guardia di Finanza très puissante, très bien organisée, aux États-Unis l'IRS, est-ce que les exemples étrangers montrent qu'effectivement, avoir une véritable police avec des services d'enquête au sein des ministères des budgets, ça peut avoir du sens?
Oui, alors bon, moi je suis pas à Bercy, mais c'est sûr que quand on regarde les services à l'étranger, bah déjà on voit que les effectifs sont beaucoup plus nombreux. Quand je vois qu'ils veulent mettre 30 ou 40 agents par rapport aux milliers d'agents de la DGFiP, ça paraît un petit peu ridicule.
Et par rapport à ce qui existe ailleurs aussi.
Oui, et par rapport à ce qui existe ailleurs, donc non, il y a un vrai problème. Il faudrait vraiment renforcer les effectifs et comme l'ont très bien dit Charles Prats et Monsieur Drezé, il faudrait éviter les doublons administratifs de telle sorte qu'on lutte vraiment contre la fraude fiscale et pas qu'on passe son temps à se coordonner entre services distincts.
Mirko Ayad, vous craignez aussi ces doublons administratifs, parce que pour l'instant, à vous écouter, il n'y en a pas un d'entre vous qui applaudit la création de cette brigade.
Je serais moins critique quand même que mes prédécesseurs. D'abord, la concurrence, ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas que ça se transforme en guerre. Parce que si on arrive à une guerre entre les services, évidemment, ça c'est tout à fait préjudiciable, mais je crois que la concurrence ne peut pas être mauvaise. Je pense qu'il faut miser sur l'intelligence des gens. même si les textes sont pas forcément très précis, que la BNRDF conserve les affaires de grande criminalité avec une dimension fiscale et que au sein de ce nouveau service on s'attache, on ait les moyens de combattre la fraude qui est principalement, exclusivement ou principalement fiscale, ça me paraît pas absurde. Et puis il faut reconnaître que il n'est pas absurde non plus que la lutte contre la fraude fiscale soit dévolue à la Direction Générale des Finances Publiques, c'est-à-dire en fait à l'ex-Direction Générale des Impôts. Ça paraît même assez évident. Et d'ailleurs, ce dispositif, il va mettre beaucoup de chaud au cœur à toute l'administration fiscale, je pense, parce que ils ont toujours été frustrés dans l'administration fiscale de ne pas avoir les moyens dont disposaient leurs collègues, par exemple, des douanes. Et donc, pourquoi nous, on a la compétence, on est formé dans une des écoles les plus prestigieuses de la République, on a cette compétence fiscale et on ne nous donne pas les moyens. Donc je pense que avec un peu d'intelligence, et je pense que le calibrage à un faible nombre de personnes est aussi une garantie que cette direction, enfin, ou ce service va se voir confier les affaires les plus graves et qu'on va pas avoir une sorte de...
De toute façon, je crois que l'idée, hein, c'est vraiment qu'elle se concentre sur les affaires les plus graves et avec à sa tête un magistrat qui...
Voilà. Donc moi, je serais plus positif.
François Egal, que vous inspire, vous, la création de cette police fiscale? Et aussi, parce que beaucoup d'observateurs et de fiscalistes voulaient profiter, ou en tout cas attendaient la création de cette police fiscale pour que Bercy abandonne le fameux verrou, le monopole qu'elle a.
Alors, on va faire sérieux les sujets.
Oui, mais parce que les deux sont liés, là. Je sais que c'est un sujet un peu passionnel chez les fiscalistes, mais les deux sujets sont liés.
Sur le premier sujet, la Cour des comptes avait publié il y a presque 10 ans un rapport sur le contrôle fiscal, auquel mon nom est attaché d'ailleurs. Et dans ce rapport, la Cour mettait en évidence un des principaux problèmes qui était rencontré par le contrôle fiscal, qui était la mauvaise coordination entre les services, entre les ministères, entre les ministères des Finances, l'Intérieur et la Justice, mais aussi à l'intérieur du ministère des Finances, entre notamment les services fiscaux et les services douaniers. Bon, quelques années après, il y a 2 ans, elle a fait ce qu'elle appelle un rapport de suivi de ses recommandations, dans lequel elle constate qu'il y a eu des progrès quand même. Cette fameuse BNDRF est un progrès, voilà. Ça permet d'améliorer un peu cette coordination, mais elle montrait aussi que c'était pas suffisant, qu'il y avait encore beaucoup de problèmes de coordination. Est-ce que cette nouvelle police fiscale va les régler? Moi, j'ai pas d'avis a priori, parce que je pense que ça va dépendre beaucoup des... On ne sait pas encore grand-chose, hein, comme on l'a dit, sur la manière dont elle va être... elle va travailler avec la BNDRF, dans laquelle les douanes et les services, la DGFiP, vont effectivement travailler ensemble. Et tout ça, ça dépend pas seulement des textes qui vont être mis en place, mais ça va dépendre beaucoup après de la pratique. La coordination entre les douanes et les services fiscaux a toujours été difficile. Derrière, il y a des enjeux de pouvoir, mais il y a aussi des choses plus fondamentales. Les services fiscaux, pour contrôler, ils contrôlent sur des déclarations de revenus, sur des choses qui dans le passé, donc ils contrôlent a posteriori. Les douaniers, eux, leur problème, c'est d'arrêter les marchandises à la frontière. Ils sont dans l'immédiateté. Donc ils n'ont pas besoin des mêmes informations et des mêmes méthodes. Donc de toute façon, culturellement, ils ne travaillent pas pareil. Donc ça va être de toute façon difficile de les faire travailler ensemble. Donc on va voir. Peut-être que finalement, la création de ce service va permettre de mélanger les cultures. Et voilà, peut-être.
Maintenant, il y a une culture en amont, une culture en aval. Les deux ne sont pas forcément...
Elles ne sont pas forcément incompatibles, mais ils n'ont pas les mêmes priorités. Ouais. La priorité des douaniers, c'est d'arrêter les marchandises à la frontière. La priorité des services fiscaux, c'est d'être sûr que la déclaration qui est faite un an après est bien faite, etc. C'est autre chose.
Non, bon, j'ai été enquêteur des douanes, j'ai un peu pratiqué ce genre de choses. La douane ne fait pas qu'arrêter les marchandises des personnes à la frontière. Effectivement, c'est la police de la marchandise, la police des flux de capitaux, la police des transactions internationales. Mais les missions de la douane sont quand même un petit peu plus larges. Et il y a une culture de l'enquête douanière, notamment de l'enquête financière, et dans les écritures des redevables, qui est tout à fait similaire à celle de nos collègues de l'administration fiscale. Donc la culture du contrôle et la culture de l'investigation chez le contribuable ou chez le justiciable est à peu près la même dans les deux administrations. Plus effectivement le volet contrôle à la circulation qu'on peut avoir au niveau de la douane, qui pourrait plus la rapprocher de ce que peut faire la police ou la gendarmerie. Maintenant, En fait, si, on sait très bien comment va être calibré ce nouveau service. On sait très bien déjà qui en est le chef, puisque ça va être la magistrate à la tête de la douane judiciaire, en tout cas. Et on sait très bien qu'on va avoir 50 agents des impôts qui vont être mis en formation judiciaire, donc pour apprendre les techniques du code de procédure pénale et pour être ensuite affecté à ce service-là pour venir renforcer les 250 agents de douane judiciaire, officiers de douane judiciaire. Voilà, c'est tout. Donc le service, on sait où il va être, parce qu'à mon avis, ils vont pas déménager de locaux, ils vont être à Ivry-sur-Seine et dans les échelons locaux en province. Donc le calibrage matériel de ce nouveau service, il existe déjà. C'est d'ailleurs le gage d'une opérationnalité immédiate. Mmh. Ils vont tout de suite être opérationnels une fois qu'ils seront habilités, les agents des impôts. Après, il faut bien avoir conscience qu'ils vont travailler sur les dossiers et les saisines qu'ils ont déjà. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont déjà travailler beaucoup sur des saisines de TVA, principalement, ce qui est une grande part des saisines de la douane judiciaire. Donc les agents du fisc judiciaire vont pouvoir travailler sur de la TVA, ce qui n'est pas plus mal puisque c'est quand même la première fraude fiscale en France. Et derrière, on va leur confier, on va dire les affaires les plus importantes. Non, ils vont se voir confier les affaires que les magistrats voudront bien leur confier. Ils vont se voir confier les affaires que les procureurs vont bien vouloir leur confier ou que les juges d'instruction vont bien vouloir leur confier. Mmh. Donc ça pourrait être des affaires très importantes. Ça pourrait être aussi...
Parce qu'en haut, c'est le parquet à l'origine dire ça va à la BNRDF,
oui,
ça va aux douanes.
C'est le parquet ou le juge d'instruction qui décide du service qu'il saisit. C'est pas du tout l'administration fiscale qui va dire moi je veux que ça aille à cet endroit-là. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut pas que l'administration.
Ils prendront ce qu'on leur donne.
Ils prendront ce qu'on. Et ils devront prendre ce qu'on leur donne. Et en plus, vous avez globalement, bon an mal an, 1 000 000 de plaintes pénales pour fraude fiscale au 1741 du Code général des impôts. Il faut bien avoir conscience que c'est principalement ces dossiers-là qui vont arriver, plus les dossiers de plainte pour fraude fiscale L228, enfin la procédure où il y a la saisine de la CIF, voilà. Mais sans passage contradictoire devant la CIF.
Ça devient un peu technique là.
Voilà, qui vont arriver, c'est le verrou de Bercy. D'accord. Et c'est le verrou de Bercy caché. Voilà, c'est le verrou de Bercy undercover.
Vincent Drosé au pied.
Donc c'est quelque chose. On sait déjà comment ça va fonctionner. Donc ça, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que effectivement, la grande question, ça va être quelle répartition entre la BNRDF et le nouveau service fiscal judiciaire. Mais ça, finalement, cette répartition, ça va être beaucoup le jeu des magistrats.
D'accord.
C'est eux qui l'auront dans la main. C'est les procureurs qui l'auront dans la main et les juges d'instruction.
J'ouvre juste très rapidement le couvercle au-dessus du verrou de Bercy, parce que disais, il y en a beaucoup qui attendaient en échange de cette création de cette brigade, la fin du verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, je rappelle, c'est le monopole qu'exerce le ministre du budget sur les décisions de poursuite judiciaire en matière de fraude fiscale. Gérald Darmanin, tout à l'heure, a dit niette. On en parlera, mais un peu plus tard. Vincent Drosé.
Alors, c'est un débat, en quelques minutes, ça va être très dur. Le monopole de Bercy, ça date d'il y a 100 ans. Et pourquoi ? Parce que c'était l'administration fiscale qui était la seule habilitée à contrôler l'impôt, à procéder au recouvrement des sommes dues. Donc, c'était elle, quelque part, qui était habilitée à qualifier les faits avant de l'envoyer en justice via la commission des infractions fiscales qui a été créée en 1977. Et d'ailleurs, qui avait été créée à l'époque, faut s'en souvenir, pour éviter l'arbitraire fiscal. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je reviens juste un instant. Quand on saisit la BNRDF, la police fiscale qui existe, c'est simplement...
Beauvau, voilà, du ministère,
ça passe par la CIF, selon une procédure particulière. Mais pourquoi ? Parce que on est en cours de contrôle, où on veut des preuves, on va aller les chercher avec le moyen de police judiciaire pour ensuite faire le redressement à Bercy. Ça, c'est ça l'idée. Et ce qui n'empêche pas, ensuite, une proposition de plainte pénale. Le problème aujourd'hui de Véro de Bercy, c'est que le débat est très passionné. Donc, philosophiquement, est-ce que, en remettant en cause Véro de Bercy, est-ce qu'on veut pénaliser toute la fraude fiscale? Objectivement, ça serait quand même un sacré changement de culture et socialement, ça serait pas admis. Et le débat aujourd'hui, c'est de savoir comment la justice intervient également d'elle-même. Alors, elle a déjà la possibilité de se saisir, le procureur, pour engager l'action publique sur le blanchiment de fraude fiscale, c'est-à-dire sur quand même un grand nombre de dossiers, parce que presque toute la fraude fiscale est vouée à être blanchie. Les soucis qu'on a, c'est comment être efficace aujourd'hui. C'est-à-dire que si on supprime le verrou de Bercy en l'état, il ne faudrait pas qu'on arrive avec des procédures déconnectées, la justice d'un côté, l'administration fiscale de l'autre, puisque ça serait déjà pas bon pour le contribuable, pas bon pour l'action publique, et au final, on perdrait soit les sanctions fiscales qui existent, qui sont élevées et dissuasives, soit les sanctions pénales. Donc il faut trouver une articulation.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le verrou fait office de filtre plutôt efficace, selon vous
Alors, c'est pas que c'est plus efficace, c'est que ça serait un changement de culture. Ce qu'il faudrait, dans un premier temps, avant de s'atteler à pour ou contre le verrou de Bercy, c'est organiser une meilleure coopération quotidienne et pour une meilleure stratégie pénale. Ça, c'est vrai, je pense qu'il y a un accord assez général là-dessus.
Je crois que Virginie Pradel a un avis sur la question, et puis après, on passera au Name and Shame, oui, parce que c'est l'émission n'est pas sur le verrou de Bercy.
En quelques secondes, comme l'a très bien dit M. Drosé, il y a énormément de contournements de la fraude fiscale, parce qu'elle est difficile à mettre en œuvre, hein, notamment parce qu'il faut saisir la commission des infractions fiscales. Donc c'est contourné en pratique, et en pratique également, on se rend compte que le verrou de Bercy est instrumentalisé par l'administration fiscale, souvent pour faire plier des contribuables et les faire payer sous la menace d'une plainte pour fraude fiscale. Dans la pratique, c'est quand même ce qu'on constate régulièrement. Donc, c'est pas forcément infondé. Il y a du sens à dire que Bercy est la plus à même à détecter les fraudes fiscales qui ont vocation à être poursuivies au niveau pénal. Mais dans la pratique, il y a aussi beaucoup d'instrumentalisation au détriment des contribuables.
Bon, de toute façon, je voulais juste le rappeler. Voilà, mais faites bien de le rappeler. De toute façon, Gérald Darmanin a dit, a fermé en tout cas toute discussion dans le cadre de ce projet de loi.
Il fait même plus, parce que dans le cadre de ce projet de loi, je vous l'annonce,
Charles Prats,
si vous avez aimé le verrou de Bercy, vous allez adorer le verrou bis de Bercy qui est dans le projet de loi. Puisque si vous avez aimé la commission des infractions fiscales qui est le premier verrou de Bercy, dans ce projet de loi, vous avez la création de la CPSF, la commission de publication des sanctions fiscales dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui est le nouveau verrou de Bercy sur le name and shame. Donc après le verrou de Bercy sur les fraudes fiscales au pénal, nous aurons le verrou de Bercy sur le name and shame.
Allez,
manifestement, à Bercy, on aime bien les serrures.
Le feuilleton du verrou, épisode 2, name and shame. Allez, on attaque avec vous, Virginie Pradel.
Sur le verrou. Oui.
Oui, continuer. François Eckel, allez-y, un mot.
Parce que quand même, sur le verrou, les parquets ne peuvent pas se saisir pour fraude fiscale, mais ils peuvent se saisir pour blanchiment de fraude fiscale. Or, si vous utilisez l'argent que vous avez gagné en fraudant, vous le blanchissez. Donc, quasiment, c'est la même chose. Hein. Et ça, depuis une dizaine d'années. Donc, le verrou de Bercy n'empêche pas les parquets financiers de poursuivre pour ce type de motif. Ensuite, alors c'est vrai que si le verrou sautait, il pourrait se saisir un peu plus souvent. Donc, ça conduirait à un peu plus de saisies, donc ça serait un peu plus facile pour eux. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui ont été avancés par Vincent Drezet, en particulier le fait qu'il faut peut-être pas, en France, trop pénaliser la fraude fiscale, hein, parce que entre la fraude et l'erreur, parfois la frontière, elle est minime.
D'ailleurs, le gouvernement présente ce projet de loi comme le pendant du droit à l'erreur. En gros, à l'heure où on est bienveillant avec ceux qui se disent se tromper, on est plus sévère avec les vrais fraudeurs.
J'ai un autre argument.
C'est comme ça qu'ils le vendent.
J'ai un autre argument qui est pas souvent avancé. Moi, je suis scandalisé par le fait que très fréquemment, dans la presse, on retrouve des informations tirées de dossiers d'instruction sur des affaires financières. C'est pas les journalistes qui les volent, ce sont soit des magistrats, soit des policiers qui les leur donnent. C'est un délit, puni d'un an d'emprisonnement. L'année dernière, ça a quand même fortement perturbé la campagne présidentielle et je n'ai pas voté pour Fillon. Mais je suis scandalisé. Donc avant d'étendre les pouvoirs des magistrats financiers, du parquet financier, je pense qu'il faudrait commencer par régler ce problème, parce qu'il y a un autre secret qui est très important, qui s'appelle le secret fiscal. Il n'y a quasiment jamais de fuite sur les déclarations d'impôts des gens venant des services de la DGFiP. Il y a une culture du secret fiscal à la DGFiP qui n'existe pas dans les services judiciaires et les services...
Et alors justement, est-ce qu'on n'ouvre pas une brèche dans le sacro-saint secret fiscal avec ce name and shame, Virginie Pradel? Je rappelle le principe, hein, c'est que désormais, toute entreprise qui va être sanctionnée au pénal pour fraude fiscale sera obligée, alors on ne sait pas encore par quels moyens exactement, quelles seront les modalités, mais de rendre publique cette condamnation. Et là-dessus, à Bercy, ils nous disent, l'idée, c'est que leur image, c'est leur fonds de commerce, et donc ça a du sens d'aller les frapper sur le terrain de la réputation. Ce principe même, est-ce que ça va dans le bon sens selon vous, Virginie Pradel?
Alors, plusieurs observations. Déjà, actuellement, il y a très peu de personnes morales qui sont poursuivies pour fraude fiscale. Parce qu'il faut rappeler que, en général, la fraude fiscale a vocation à être engagée quand on veut engager la solidarité fiscale du dirigeant. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des affaires de fraude fiscale en matière de BTP ou en matière immobilière.
Sachant que dans l'esprit de cette mesure, ils visent les entreprises. Hein. Je dis ça, mais effectivement, vous faites bien de le rappeler. Mais on sait.
Mais c'est donc, par exemple, on a le cas de Google. Mais c'est vrai que dans la pratique, il y a très peu d'entreprises qui sont poursuivies pour fraude fiscale.
C'est plus les personnes physiques.
C'est les personnes physiques, parce que il y a un opprobre social qui est attaché à la fraude fiscale. Bon, le name and shame, ça pourrait être une bonne mesure. Ça existe dans différents pays, notamment des pays pays anglo-saxons, donc l'Irlande l'a mis en œuvre depuis 1997 et le Royaume-Uni depuis 2010. Mais ce qui se passe, c'est que sur ces listes, on retrouve aucune entreprise. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer en France, parce que les entreprises vont négocier, sachant que si on mettait ce dispositif de name and shame en place, il n'y aurait aucune publication possible avant que la sanction soit définitive. Donc on peut déjà imaginer que les entreprises, pour protéger leur réputation, vont engager tous les recours possibles, sachant que c'est des recours qui durent des années et des années. Hein. Il y a des procédures fiscales qui durent 15 ans, donc qui vont entraîner... encombrer les juridictions administratives pour salir la réputation des entreprises. En pratique, je pense
donc
que
il y a un effet pervers. Il y a un effet pervers que les directions juridiques des grosses boîtes potentiellement visées puissent jouer la montre et engager tous les recours possibles.
Oui, et d'autant plus que c'est le name and shame.
Oui, Mirko Ayat,
Jouer la montre, c'est déjà le cas. À mon avis, le name and shame ne va pas prolonger plus que ça. Mais je partage tout à fait votre avis. Ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement limité. Et puis, il faut quand même analyser les choses au plan culturel. Et jusqu'à une certaine période, quand même encore, la fraude fiscale n'était pas considérée comme une vilenie par une bonne partie de la population. Le consentement à l'impôt étant quelque chose de compliqué, il faut bien analyser si le fait d'être cité après toutes les étapes dont vous avez parlé fort bien, est-ce que le fait d'être cité dans une affaire est vraiment très pénalisant, le fait de se voir cité pour une affaire fiscale. Je ne suis pas certain que ça ait tous les effets qu'on lui prête, et je pense que c'est une mesure vraiment publicitaire. Un petit mot, je reviens en arrière, juste à mon avis, l'histoire du verrou de Bercy, on en discutera beaucoup au Parlement et vous en entendrez parler à nouveau.
Mirko Ayat, on marque, si vous voulez bien tous, une courte pause, et on va continuer quand même à parler de ce name and shame, parce que Bercy y croit beaucoup. Après, est-ce que c'est une mesure d'affichage ou est-ce que ça peut vraiment faire office d'une arme de dissuasion comme il l'espère? On va voir ça dans un instant.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Mathieu Jolivet reçoit les décodeurs de l'écho.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans ces décodeurs de l'écho consacrés aujourd'hui au projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Charles Prats, on était en train de parler du name and shame. Vous venez de lire là un document qui est encore tout chaud, c'est l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi. Alors qu'est-ce qu'ils disent déjà sur la fiabilité technique et juridique de ce name and shame?
Sur le name and shame tel qu'il est proposé dans le projet de loi par le gouvernement, globalement la mesure, c'est de dire pour un redressement supérieur à 50 000 euros, les personnes morales, pas les personnes physiques, les personnes morales, pourront voir la sanction administrative publiée s'il n'y a pas de poursuite pénale. Bien. Or, le Conseil d'État tire la sonnette d'alarme en disant que bon, cette procédure avec la commission dont on a parlé tout à l'heure, hein, le nouveau verrou de Bercy, le Bercy bis, cette commission ne se justifierait pas, mais bon, ok. Mais surtout, le Conseil d'État explique que le fait de réserver cette sanction de publication administrative aux personnes morales et d'en dispenser les personnes physiques est constitutive d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques et d'une rupture de l'égalité qui ne se justifie pas par l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. Donc en clair et entre les lignes,
sérieux avertissement.
En clair entre les lignes, le Conseil d'État annonce la censure du dispositif par le Conseil constitutionnel s'il est saisi. Voilà. Donc le name and shame tel qu'il est prévu dans le projet de loi, le name and shame administratif, à mon avis, a vocation à finir aux oubliettes si le dispositif n'est pas remodelé pendant les débats parlementaires. Vous avez une autre partie du name and shame entre guillemets qui est prévue dans le projet de loi, c'est en fait la publication des sanctions pénales pour fraude fiscale, c'est de la rendre obligatoire. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le cas jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel censure la publication obligatoire des jugements de condamnation pour fraude fiscale par le juge pénal. Donc la loi a été modifiée et aujourd'hui, c'est une faculté pour le juge. Et là le projet de loi demande simplement à revenir à un go-between entre les deux options, ce serait que la publication serait obligatoire, sauf possibilité pour le juge d'y déroger pour assurer la constitutionnalité de la peine entre guillemets obligatoire. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose sur le volet publication des décisions pénalement sanctionné, et sur le volet name and shame, sanctions administratives publiées sur le site internet de la DGFiP pendant un an, puisque c'était ça le dispositif. Le Conseil d'État explique que la nouvelle commission Théodule de publication, le nouveau verrou de Bercy, n'est pas utile, et que le fait de réserver ça aux entreprises, c'est constitutif d'une rupture d'égalité, et donc le dispositif en fait apparaît très très fragile.
Vincent Drosset, vous qui êtes du syndicat solidaire finances publiques à Bercy et fiscaliste, vous sentez déjà comme ça à chaud une fragilité juridique sur cette partie du name and shame?
On est plutôt sur la fragilité opérationnelle et effective, on va dire, puisque manifestement, politiquement, le gouvernement a voulu proposer une réponse pour les entreprises, ce qui existe déjà de fait pour les particuliers, hein, c'était dit par Charles Pratt, notamment sur les condamnations pénales, et parce qu'un grand nombre d'affaires mettent en avant des formes d'évasion et de fraude fiscale, hein, pour dire rapidement, de grandes entreprises. Le problème, c'est que ça a été dit tout à l'heure, c'est que si les procédures de recours traînent en longueur, ben, finalement, ça n'aboutira pas, et l'écueil qu'on craint, c'est que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en matière de stratégie pénale. C'est-à-dire que, à la fois faute d'informations et de moyens suffisants, ce qui est envoyé au pénal n'est pas forcément la fraude la plus importante. Et si demain on publie des noms d'entreprises de taille intermédiaire, eh ben on passera à côté de l'objectif. Donc, faut se méfier de ce type d'annonce. Quand même, on peut redire en principe que c'est fondé. Après tout, on se dit, bah, ça peut être dissuasif que quelqu'un qui fraude se dise, je risque d'être publié, de voir mon nom publié, le nom de mon entreprise. Mais s'il y a déjà les moyens de le contourner, il faut se méfier de l'écart entre l'annonce et la réalité, parce que ça fait partie des choses qui peuvent décevoir la population, parce qu'il y a déjà eu quand même pas mal de lois en matière de lutte contre la fraude fiscale, et pourtant elle est toujours là, et bien là, les successions d'affaires le montrent. Donc il faut faire attention à ces annonces et à la réalité. Lorsqu'il y a un trop grand décalage, la population s'en aperçoit, ça alimente une crise morale, j'allais dire démocratique, ça alimente également ce sentiment réel, profond et en grande partie légitime de l'injustice fiscale, mais ça dégrade le consentement à l'impôt.
Le temps passe trop vite et je regretterais de ne pas avoir abordé avec vous un autre volet de ce projet de loi qui vise les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont ceux que Bercy estime être les complices des fraudeurs fiscaux, et ceux qu'ils ont dans leur viseur, ce sont les conseillers fiscaux, les avocats fiscalistes qui vendent des montages fiscaux assez complexes, après utilisés à mauvais escient par des fraudeurs. Jusqu'ici, Virginie Pradel, c'est un sujet très compliqué parce que ces avocats fiscalistes ou conseillers fiscalistes évoluent dans une zone juridique qui est très floue.
Très flou, flou à cause de l'État, hein, parce que les dispositifs votés sont laconiques. Ils mettent un certain temps à être décryptés par l'administration fiscale. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on peut d'ores et déjà engager la responsabilité des conseils fiscaux au niveau pénal. Ça veut dire qu'ils peuvent être reconnus complices de fraude fiscale. Donc, on a des affaires qui ont défrayé la chronique, telles que l'affaire Nina Ricci, où par exemple, le conseil fiscal a été condamné à une peine d'amende. Après, on voit qu'il y a une propension dans les pays avoisinant la France. Je pense par exemple au Royaume-Uni, hein, qui a adopté une législation très sévère à l'égard des conseils fiscaux, qui a été adoptée par George Osborne en 2015 et qui est entrée en vigueur en novembre 2017. Qui prévoit tout simplement que les conseils fiscaux reconnus comme ayant facilité certains montages fiscaux, hein, c'est très flou aussi, donc on imagine que l'administration, ça ouvre un peu la boîte de Pandore pour l'administration, ces conseils fiscaux au Royaume-Uni peuvent désormais être condamnés à une amende équivalente à 100% des droits éludés. Donc en France, c'est moindre, hein, pour l'instant. Ce qui est prévu est bien moindre, ça reste raisonnable. Mais
ce qui est compliqué aussi, Mirko Ayad, je voudrais aussi vous entendre là-dessus, c'est que finalement aujourd'hui, il faudrait aussi savoir quel montage fiscal relève de la fraude ou pas. Il y aura des choses, il y aura aussi des schémas à préciser et à définir. Et c'est toujours le thème et cette zone parfois un peu ténue entre l'optimisation fiscale agressive. À partir de quand est-ce qu'on va estimer que ça relève de la fraude?
Ça, malheureusement, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, il y a parfois des affaires qui sont parties, où l'administration fiscale est partie sur une présomption de fraude très grave, et où, in fine, le Conseil d'État dit non, mais pas du tout. Une fois que l'affaire arrive au bout de tous ces jugements, dit pas du tout. Ce qu'ils ont fait, tout à fait, c'est notamment souvent le cas, par exemple, quand l'administration fiscale met en jeu l'abus de droit, où on arrive au bout du compte à dire non, mais finalement, ils ont fait tout à fait normalement. Alors, je crois que déjà, si on avait des textes un peu moins complexes, il y aurait moins de moyens de les détourner. Si les textes sont complexes et que la pression fiscale étant très forte, il faut prévoir un tas de dispositifs qui permettent une petite respiration dans certaines situations où les textes deviennent forcément injustes ou inapplicables. Et donc, tout ça est extrêmement, extrêmement compliqué. Je crois qu'on va peut-être dans ce sens-là, quand on prend par exemple ce qui se passe maintenant avec ce qu'on appelle la flat tax pour les revenus financiers, le texte est relativement simple. Les effets prévisibles, et il y aura moins de possibilités d'avoir des montages pour sortir de ces situations. Impliquer ceux qui sont à l'origine de ces montages, comme vous l'avez dit, c'est déjà un petit peu le cas, avec une pénalité qui est beaucoup moins forte, parce qu'elle est en fonction des honoraires perçus et non pas en fonction des droits éludés. Donc bon, voilà, c'est un peu moins. Mais il y a eu une tentative il y a quelques années de Bercy pour mettre en place un texte de ce style, et il avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui. Donc il est possible que, enfin, peut-être ont-ils rédigé le texte un petit peu différemment.
Oui, François Eckel.
Je pense que l'idée est intéressante, mais toute la difficulté, elle vient de la complexité du système fiscal. Ces montages, ils se situent à la frontière entre le légal et l'illégal. Et cette frontière, elle est vraiment pas facile à déterminer. Je vous en donner un exemple qui a fait beaucoup de bruit. L'année dernière, la France a été condamnée à 10 milliards d'euros à rembourser aux entreprises pour un dispositif fiscal illégal au regard du droit européen et de la Constitution, la taxe sur les dividendes. Tous les bons esprits de Bercy avaient considéré au début, en tout cas, après ils ont eu quelques doutes à un certain moment, mais en tout cas au début, que ce dispositif, il était parfaitement légal. Eh ben non, il n'était pas légal. Donc 10 milliards d'euros d'amende. Voilà.
Peut-être que demain, les nouveaux enquêteurs du fisc devront se pencher sur ce qu'ont fait leurs patrons. Hein.
Ce qui est très drôle, c'est que c'est de l'argent qui a été pris aux entreprises, et du coup, on leur a augmenté les impôts pour pouvoir. Enfin,
ça illustre bien la difficulté de l'exercice. C'est très compliqué, la fiscalité. C'est pour ça que dire qu'il suffit de contrôler pour rapporter plein d'argent, ça on va gagner, voilà, on va réduire le déficit. On lit parfois qu'on peut réduire, on peut annuler le déficit public en contrôle au mieux et en luttant contre la fraude fiscale. Non, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes parce que la principale difficulté, elle est là. C'est que la frontière entre la fraude, l'erreur et le montage légal, mais qui en fait est illégal, est très difficile.
Je crois qu'aussi, il faut pas concevoir des systèmes dont on sait pertinemment qui vont être générateurs de fraude fiscale. Je pense à la TVA, vous avez parlé tout à l'heure, M. Prat, de la TVA, vous avez tout à fait raison. On a conçu un régime de TVA intracommunautaire qui portait en lui la fraude comme le nuage porte l'orage, si je puis dire. On savait que ça allait être ça. On a supprimé simplement les contrôles et on est passé sur du déclaratif. C'est une fraude qui est en dizaines de milliards chaque année.
Alors, sur les intermédiaires, sur les sanctions des intermédiaires, une mesure à peu près similaire avait été proposée il y a quelques années par le Parlement et elle avait été censurée à l'époque par le Conseil constitutionnel. Que nous dit le Conseil d'État? Est-ce qu'il démonte encore
le Conseil d'État, là, en l'espèce, ne démonte pas cette mesure, parce que le Conseil d'État, qui serait le juge naturel du contentieux de cette disposition, au contraire, trouve ça très bien. Mais en fait, cette mesure, je vais pas dire que c'est quelque chose de scélérat, parce qu'on s'exprime pas comme ça quand on fait du droit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle est prise, cette mesure? Cette mesure de sanction des intermédiaires, elle n'est prévue que pour viser les dossiers dans lesquels vous avez 80% de pénalités qui sont infligées par l'administration. Globalement, c'est les dossiers d'abus de droit. Or, au pénal, l'administration fiscale n'envoie jamais de dossier d'abus de droit, parce qu'elle a bien trop peur de se faire retoquer le dossier par le juge pénal, qui va dire non, mais là, il y a un problème, il n'y a pas d'élément constitutif d'infraction, enfin, l'élément intentionnel n'y est pas, etc. On ne peut pas considérer que la personne a volontairement fraudé, parce que l'abus de droit, c'est toujours très touchy. Et vous remarquerez, les dossiers CIF, verrou de Bercy, etc., l'administration fiscale n'envoie jamais de dossier d'abus de droit devant le juge pénal. Donc, la solidarité financière qui existe déjà au titre de la complicité pour les avocats, les conseillers fiscaux, etc., devant le juge pénal, elle ne peut pas être mise en œuvre dans la procédure administrative classique. Et c'est pour ça que l'administration fiscale veut pouvoir incriminer les conseillers sur ces dossiers-là. C'est pour pouvoir leur mettre une espèce de solidarité financière, leur mettre une amende. Voilà. Le
problème, c'est qu'on en parlait un peu en aparté, c'est qu'aujourd'hui le conseiller, comme il ne peut pas, il peut demander à l'administration un éclairage, ce qu'on appelle un rescrit fiscal sur un montage, pour lui demander si c'est valide ou pas. L'administration lui répond ce qu'elle veut lui répondre, mais le contribuable et son avocat ne peuvent pas contester la réponse de l'administration. Ils doivent attendre d'avoir un redressement ou éventuellement de faire une demande de dégrèvement pour aller devant le juge pour contester. Dans ce cas-là, on va leur reposer l'abus de droit. Et donc, vous allez vous retrouver avec des avocats, des conseils qui vont être pris dans la nasse parce que d'un côté, ils ne pourront pas faire valoir un montage en disant ce n'est pas de l'abus de droit. Et de l'autre côté, quand ils iront en contestation, ils auront un redressement. On va leur dire c'est de l'abus de droit. Et donc là, ils vont se retrouver piégés. Donc, cette disposition est très, 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 très problématique d'un point de vue du droit, sauf à ce que le Conseil d'État accepte qu'on puisse contester les rescrits.
Il nous reste que deux minutes. Il faut aussi quand même qu'on parle un tout petit peu de l'impact sur les finances publiques. François Eckhall, Bercy estime le coût de la fraude fiscale de 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est très compliqué, mais est-ce que si on est bien outillé avec un arsenal efficace, on peut espérer récupérer beaucoup d'argent ?
Le montant de la fraude, si c'était, par définition, on ne connaît pas. Donc, il y a des méthodes d'estimation qui sont extrêmement fragiles, soit parce que on extrapole les résultats des contrôles fiscaux, mais comme les contrôles fiscaux se font pas au hasard, c'est difficile de les extrapoler, soit on joue sur les incohérences statistiques, mais comme les statistiques sont pas fiables, les incohérences peuvent exister sans qu'il y ait de fraude. Donc, tous ces chiffres, bon, c'est probablement en dizaines de milliards. Ça, c'est possible, mais on ne sait pas combien. Après, le montant des redressements, là-dessus, c'est une vingtaine de milliards. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 20 milliards, il n'y en a qu'une petite moitié qui, en réalité, est encaissée. Ça, c'est un problème général. Oui, il n'y a que 10 milliards, il n'y a que la moitié des montants qui sont notifiés par la DGFiP qui sont effectivement encaissés. C'est un problème général en matière pénale. C'est-à-dire que c'est bien gentil de mettre des sanctions, mais encore faut-il les appliquer. Et en matière fiscale, la sanction, c'est un redressement. C'est comme pour les amendes. Le montant, la proportion d'amendes qui sont effectivement recouvrées, c'est pareil. C'est la moitié, même moins de la moitié. Donc, c'est 10 milliards, à peu près, le montant des recettes tirées du contrôle fiscal. C'est pas, faut pas fantasmer sur ces 10 milliards. Ça a augmenté de 2 milliards ces dernières années avec tous les efforts qu'on a fait.
Mirko Ayat, on va conclure avec vous.
Oui, je vous remercie. Si le contrôle fiscal est bien conçu et si les contribuables ont l'impression que ce contrôle fiscal est efficace, ils vont tenter de mieux déclarer. Et si ils déclarent mieux, les rentrées fiscales, elles vont augmenter, mais pas, comme le disait Monsieur Eckhall très justement, pas par le biais du contrôle fiscal. Si vous voulez, je crois que
ce sera un potentiel effet vertueux de la chose.
Un effet vertueux. Et vous faisiez tout à l'heure allusion au droit à l'erreur. Je crois que le gouvernement va essayer effectivement de vendre ces deux parties, c'est-à-dire d'un côté la carotte et de l'autre le bâton. Mais on a l'impression que c'est un petit peu déséquilibré en la matière et que le bâton sera quand même plus fort que la carotte.
Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces expertises. Je crois qu'on pourra quand même retenir, à vous entendre les uns et les autres, une possible fragilité juridique qui entoure pour l'instant ce nouveau et tout chaud projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Merci beaucoup Mirko Ayat, professeur de droit et fiscalité HEC Paris. Merci beaucoup Virginie Pradel, fiscaliste. Vincent Drezet du syndicat Solidaire Finances Publiques à Bercy. François Eckhall, économiste spécialiste des finances publiques et président de Fipeco. Et puis enfin Charles Prats, magistrat et spécialiste de la lutte contre la fraude. Les prochains décodeurs, vous retrouverez bien sûr Fabrice Lundy qui parlera de fiscalité, il parlera de Google et de la taxation des GAFA avec le boss de la fiscalité à l'OCDE, Pascal Saint-Amand.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.